D'écouter la reprise de Please Don't Touch de Johnny Kidd and the Pirates par Motorhead et Girls' School. Et juste avant, c'était Angel Witch, You're an Angel Witch, You're an Angel Witch, le morceau préféré de Kronos. Oui, Kronos n'aime pas ce morceau, il le disait dans une interview donnée au Fall of Summer, c'était en 2017, lors de la seconde venue de Venom, lors de ce mythique festival. Vous aurez compris, spécial New Wave of British Heavy Metal ce soir. Et on poursuit avec quoi ? Avec Angel Witch encore et le morceau Sorceress.
I can't feel you there.
C'était encore Girl School avec Come On, Let's Go. Et écoutons Kim McAuliffe qui raconte éventuellement l'histoire de Girl School.
And then Deep Purple on the Burn Tour. Little did I know that later on in the years we'd actually be playing with them.
Nothing to lose, come on!
When you first played rock clubs that had probably only ever seen male bands in yeah. them before, do you ever feel that you had to win the audience over?
I think in the beginning, people didn't really know what to make of us. But, you know, they just, I think, first of all, just looked at us as if to go, say, what the hell is going on here, you know?
Did you get any heckles?
Oh, God, yeah. It always used to be, get your tits out, basically, you know. And we used to say, get yours out first.
Oh, we're the Barbie Girl School Army, la 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 la
After learning their trade playing sweaty rock clubs, Girls' School received the ultimate metal seal of approval.
There's this little band called Motorhead happened to be looking for a support band. And Lemmy heard the single, and he came down to rehearsal to see if we could actually play. And, of course, then they invited us on their first major British tour. We'd never been, you know, on a tour like it, so we didn't really know what to expect. And we actually shared a bus with Motorhead as well on the first tour. So, of course, we hardly even knew them. And first of all, when we saw pictures of them before we actually met them, we were going, what the hell? You know, absolutely petrified.
On tour with Motorhead, were you under pressure to party as hard as them because you were, you know, had to yeah. keep
we,
your
we
end
didn't,
up?
We didn't find any pressure whatsoever. There was no mentions of cups of tea or anything like that. I mean, basically, they used to bring us in crates of special brew.
So tell me about Please Don't Touch.
Dick Mayle, our producer, basically. And then started to work with Motorhead as well. And he's the one that came up with the idea. He said, why don't you two get together to do Please Don't Touch?
Please don't touch. I say so much. Please don't touch. I say so much.
It went straight to number 5. We've still got the silver record. I mean, it sold 250,000. And it only went...
On laisse les écolières de côté et on va vers le groupe Virtue. We Stand to Fight, un groupe nettement moins connu au niveau de la New Wave of British Heavy Metal, mais voilà, c'est un groupe qui valait son pesant d'or tout de même. We'll be right back.
vicious. You're up to the core. Everybody knows what you got, but they still come back for more. You're everybody's favorite. Give them all a good time. Your life's a total disaster, but when you sign the dotted line.
Poison, poison.
One night with you, you got me
poisoned.
Making love with the devil's daughter.
Poisoned.
One night with you, and you got me
poisoned.
That dirty little bitch got me
poisoned.
Sit close beside me. Down, honey, it's about to rip. Scrummy's little Birkin, daddy's own pride. But you welcomed me with open legs, kept me satisfied.
Poisoned.
One night with you and you got me.
Poisoned.
Making love with the devil's daughter.
Poisoned.
One night with you and you got me.
Poisoned.
That dirty little bitch is got me
poisoned.
Now, you've been in Rock Goddess, or you've been in bands anyway, since you were 13.
That's right.
Alors à l'instant, c'était bien entendu Venom avec Poison. Petite interlude avec une interview de Rock Goddess et on reprend donc la session, enfin on reprend. De toute façon, l'émission est entièrement consacrée à New Wave of British Heavy Metal, même si en coulisses, on parle plus de funk et de gangsta rap. Mais c'est une autre histoire, on verra avec les invités tout à l'heure.
So it was something he wanted his kids to do as well.
So he gave you a lot of encouragement, did he, when you were 13?
Support, everything, yeah.
What about the rest of the family, though? I mean, when you announced the rest of the family, you know, I'm going to be in a rock and roll band, I mean, did they go, but I think you should learn to be a secretary, my dear, or something
No,
like that?
Well, the manager was my father, and he formed the band, and my mum was well into it, and my sister's a drummer, and that is the family.
So what kind of encouragement did they give you in those early days? Because obviously it takes a fair amount of money to get going and all that kind of stuff.
Well, we always taught to take it seriously, you know, rather than a hobby, and this will be your profession. And so that's the way, it was always a professional thing.
Did you pay your dues to a certain extent and sort of go around to all the, you know, the smaller clubs and build up a following locally? Did you do all that kind
yes,
of stuff?
Yes, definitely. Yeah.
What was it like then? I mean, for a young girl on the road, you know, playing rock and roll in small clubs.
Great. I mean, we always have had, and always hopefully will, had a great reception. Mm. Every new territory has always been brilliant.
But in those early days, though, what was it like? I mean, was it natural for you to do all that?
Very natural, because I was born into the business anyway. I was used to a kind of that atmosphere, because my dad was like in bands when I was a small kid and stuff. So it was felt very natural. It wasn't alien at all.
Now, talking about Rock Goddess's fans now, you have, I think, one of the most loyal tribes of fans that I've ever known. I mean, people do follow you, I know, from gig to gig, and they're very loyal.
Very loyal.
What is it about the band that makes those fans so loyal?
I think a lot of it is after gigs, we talk to them, and there's no superstar stuff, you know. When we're on stage, you know, we talk to them as friends, rather, and we try and take away that gap and make it all like, let's have a party, instead of, hey, look at me, I'm the rock star, you know? And I think that counts for a lot, because a lot of fans have been really hurt by their idols when they've met them afterwards, and they've been a bit offish with them, put the sunglasses on and, all right, that's it. You know, we'll talk to them and we'll talk about bands with them and just be on, you know, just ordinary people.
Who are your favourite bands and your influences?
Well, I'm a bit of a heavy metal snob. I mean, most of the stuff I like is heavy stuff. Like, and I can never think of it when people are... Kiss was always my main thing since I was a kid. And I used to like Led Zeppelin and things like that. Now I like Wasp and Bon Jovi. I just like a whole range of things. And old rock and roll.
Now, the thing about the kind of music that you play, which is, I suppose, sort of hard rock, is the best way of describing it, is that it's sort of always been fashionable, hasn't it? I mean, whereas other fashions have come and gone.
It's always been there.
It's always been there.
That's right.
What is it about the music? Is it just because it is honest? It seems to be more honest.
It's honest, it's exciting. It's very exciting. Gigs are an event.
came to pass that Dr. Funkenstein returned to find that the planet had fallen prey to the dread placebo syndrome spread by the evil Sir Nose Devoid of Funk.
I am Sir Nose Devoid of Funk.
Man was fast becoming an endangered species, and Parliament had but one choice: to declare war. From his arsenal of secret weapons, Dr. Funkenstein unveils his bop guns.
Shoot them with bop guns!
The only hope to win the battle of Funkentelechy versus the placebo syndrome. Parliament's Funkentelechy versus the placebo syndrome. The battle of the century from Casablanca, Record and Film Works.
Being aware of the non-ending condition of our radically non-logical, necessary, and yet free and responsible nature.
Glory, hella stupid, or pin the tail on the funk game. This is the Big Bang from Parliament on Casablanca, Record and Film Works.
Alors, vous ne voyez pas les coulisses, ça paraît un peu haché, mais c'est y a pas mal d'activités. Donc, on vient d'écouter Saxon Millie Sugard et on va écouter ensuite Wrathchild de Iron Maiden, second album.
Now I spend my time looking all around for that master. Beware the...
Alors oui, je rigole, mais voilà, comment dire, officiellement c'est une émission sur la New Wave of British Heavy Metal, mais en officieux c'est beaucoup plus mélanisé, on va dire ça comme ça. Donc, les Muse, qui a été écrite donc, après Swedish Death Metal, après Extremity Retained, après Todeszenzurt, donc sur la scène allemande. Voici Total Virulence, un bouquin sur la scène death metal espagnole entre 90 et 94, avec une compilation CD incluse, donc avec 17 titres donc, et 17 groupes, dont Necrophiliac, qu'on avait... Le camarade de Argiop avait interviewé Child Abuse, Unbounded Terror, Spontaneous Combustion, Total Death, Fermento. Alors le problème, c'est que c'est un bouquin en espagnol et que l'auteur ne prévoit pas de traduction anglaise. Alors que pour, par exemple, Todeszenzurt, il y aura une traduction anglaise pour la... Donc c'est en allemand, il y aura une traduction anglaise pour la fin de l'année. On change de style. La nouvelle vidéo de Jay Perico, Tully. Alors c'est quasiment la même recette. Par contre... Je trouve, on demandera à l'expert, tiens, on va lui ouvrir son micro éventuellement. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'influences Down South Trap que d'influences G-Funk dans sa musique, même si... Alors, attends. Vas-y, vas-y. Exprime-toi.
Par rapport à quoi
Monsieur Ginec, non, par rapport à J.P. Rico. Je trouve que... Alors, moi, ce qui me gêne chez J.P. Rico, c'est que si tu voulais acheter un album, tu payais $100... pour avoir un truc. Moi je trouve ça hallucinant.
$100.
Ah ouais, c'était 100 dollars et t'avais le pack t-shirt, concert, ouais, machin. Rapproche-toi.
Ils sortaient des mixtapes en fait à 100 euros. Ils en sortaient peut-être. C'est peut-être aussi un. On en vend moins, mais c'est élevé. Te donne l'accès à du stream en tout temps, stream, téléchargement, t-shirt. Actuellement, je crois, faire des trucs. Ça peut être intéressant, mais après, il faut pas.
Voilà. Après. Alors, on change encore de style. Donc, mort de Pitway, qui était le bassiste de UFO, qui avait aussi monté un groupe avec Fast Eddie Clark de Motorhead. Donc, Fast Eddie Clark avait quitté Motorhead sur un désaccord musical. Le groupe s'appelait Fastway, et donc Pitway avait 69 ans. Le groupe The Cult est entré en studio pour enregistrer un nouvel album, donc 4 ans après Hidden City, qui était sorti en 2016. On revient au Death, puisqu'on peut enfin précommander le fanzine Compilation of Death Volume 4, donc qui était supposé sortir en 2018, donc fanzine fait par deux Chiliens. On peut le précommander chez Headbangers, et il coûte 56 euros plus frais de port. Alors, si vous regardez Vlatti, vous avez vu qu'il y a une session, enfin en tout cas, il y a la partie d'une interview consacrée à E40, donc allez voir ça. Aggressor, le groupe français, parce qu'il y a un Aggressor colombien, réenregistre l'album Neverending Destiny. Donc j'espère que ça va sortir en version originale, version enregistrée 30 ans après. On reste dans le style, puisque le label québécois Temple of Mystery Records va sortir en CD cassette le second album des Thrasher Occult Burial, Burning Airy Lore. Ça sortira le 30 octobre. La version vinyle, par contre, ce sera sur le label Invictus Production pour l'Europe et Electric Assault Records ou Stygian Blackheart pour les USA. Mark Golan est en couverture du nouveau Rock'n'Folk, ça c'est une bonne chose. Et on termine avec ESC Distribution qui va rééditer La Maison près du cimetière de Lucio Fulci. Alors comme il reste 25 minutes, on va quand même demander aux invités de se présenter brièvement. Donc à ma gauche, Monsieur Kofi Ouzir.
Ah mais t'es Ouzir. Bonsoir.
Donc, qu'est-ce que tu viens faire, on va dire, quasiment 20 ans après 20 ans après
non.
mon dans la région
Non, mon dernier passage à Tours, c'était en 2005, je me rappelle bien, j'étais avec Happy Sondo. Et qu'on était venu faire notre dernière conférence. Au Sanitas, on était venu faire notre dernière conférence sur l'histoire de l'humanité, puisqu'il était question du berceau de l'humanité, l'Afrique berceau de l'humanité, et donc du parcours de l'espèce humaine. Sur Terre jusqu'à l'occupation des 5 continents. C'était ça, c'était une soirée mémorable qui s'était très très bien passée à l'époque. C'est mon dernier passage médiatique à Tours, parce qu'après, Tours reste quand même la terre de notre jeunesse estudiantine. Donc je reviens de temps en temps. Et donc médiatiquement, je n'ai pas été trop présent. Et là, je reviens et vous m'offrez un micro. C'est certainement pour parler un peu de mon livre qui est sorti et qui est sur le marché.
Ton actualité.
Oui. Donc mon actualité, c'est ça, hein, c'est que déjà quand je suis remonté à Paris, j'ai été beaucoup impliqué dans le milieu panafricain, la communauté au sens global du terme. Hein, et puis j'ai commencé à écrire à l'époque dans quelques magazines qui m'offraient des espaces pour les chroniques historiques et culturelles du continent, du peuple noir et de ses diasporas. Et assez rapidement, je me suis un peu lassé de ça, je me suis lancé dans l'écriture, des projets d'écriture. Et l'aboutissement de ces projets, c'est l'apparition d'un roman sur le marché depuis 2017, maintenant, qui s'appelle La perfection narcissique de Kissiné. C'est un roman. Un roman que j'ai décidé d'écrire avec une démarche qui était d'abord, bien sûr, c'est un roman, donc c'est une intrigue, une passion amoureuse entre deux jeunes afrodescendants qui se rencontrent à Paris. Chacun a son parcours, un peu heurté dans le milieu, de par leur milieu familial, ou leur milieu familial plutôt, et vont se rencontrer, vont commencer une histoire qui n'est pas évidente. Mais moi, en tant qu'auteur, je me suis ouvert des espaces pour faire la promotion de ce qui m'est toujours cher, notamment la culture, la promotion de la culture noire. Ce n'est pas la promotion, mais la vulgarisation de la culture noire. Ça parle un peu de l'esclavage à travers le symbole de Sankofa. Ça parle du folklore du peuple noir par l'héritage que les esclaves ont laissé dans le Nouveau Monde, notamment en Amérique et puis en Amérique latine. Ça parle aussi de la promotion de l'art, de la culture africaine, moderne, à travers la rumba, des petits clins d'œil comme ça, qui font que c'est un livre qui, depuis 3 ans, a son parcours qui est plutôt intéressant, avec des retours de plus en plus enthousiastes. Et surtout, des gens qui reviennent à moi et qui demandent des livres à lire pour approfondir les thématiques que j'ai eu à aborder dans ce livre-là. Voilà, grosso modo, l'actualité de ma personne et la raison de ma présence à Tours, parce que je suis venu faire une petite promotion du livre à Tours et dans le réseau amical, et puis en même temps positionner le livre dans quelques librairies de la place Tourangelle. Sachant que, je tiens à le préciser, l'héroïne qui s'appelle Kissiné, c'est une Tourangelle. Elle est née à Paris, mais elle a grandi ici à Tours. Donc quand on lit le livre, qui connaît Tours se retrouve à travers ce livre dont quelques scènes se passent dans quelques arcanes de la ville de Tours, notamment la rue Nationale, la plage Jean-Jaurès, ainsi de suite.
Il
n'y
a pas de scène à Radio Campus. Hein.
Pardon? Non, il n'y a pas de scène à Radio Campus, non. Il n'y a pas de scène à Radio Campus, non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas,
peut-être
non.
Dans la suite.
Parce que
justement, c'est pas une interview sur le bouquin, mais oui. Si je me souviens bien, parce que j'ai pas lu le bouquin hier, la fin a l'air un peu ouverte. Donc, est-ce que ça amènera à une suite ou c'était juste un épisode
Moi, quand j'avais écrit le livre, au fait, c'est vrai que j'ai choisi une fin qui déstabilise un peu les gens. C'est une fin où il y a plusieurs possibilités après. J'ai pas mis un point final définitif. En même temps, lorsque j'ai écrit ce roman, je n'avais pas idée de me projeter dans le futur pour écrire une suite. Je n'aime pas trop les suites. Ça, c'est dans ma vision personnelle des choses. Je me suis dit que vu la densité des deux personnages, les frictions qu'il va y avoir entre eux, et puis le rapprochement autour du patrimoine, notamment les deux bons synthés. Il y a le jeune homme qui est plutôt passionné d'histoire, et puis la jeune fille qui, elle, sort d'un milieu familial quand même, où elle a un certain bagage culturel, mais elle n'est pas, outre mesure, intéressée par l'histoire du peuple noir. Elle va en prendre conscience en se frottant à ce garçon, enfin, au sens guillemets.
De toute façon, vous verrez le bouquin, il y a une différence.
Bien sûr. l'idée à la fin, c'est que moi, je n'ai pas voulu me projeter, mais la plupart des lecteurs me demandent s'il y a une suite, parce qu'ils réclament même quasiment une suite. Quoi. Donc, je ne sais pas, je verrai bien ce que ça va donner. Dans les années à venir, je ne sais pas, peut-être que j'aurai un jour envie de reprendre l'histoire et de donner une suite, et pourquoi pas revenir à Tours et redétailler les histoires à Tours. Parce que là, c'est une histoire parisienne, mais qui commence à Tours, parce que la jeune femme est née à Tours, a grandi à Tours, et qui connaît bien Tours, se reconnaît un peu à travers les pages de quelques chapitres de ce livre.
Alors, puisqu'on est en comité dûment approuvé par Manuel Valls, là, alors, je suppose que... Je suppose qu'il y a au moins une personne qui a vu le film Tout Simplement Noir, là, autour de... À part moi, je veux dire.
Moi, je ne l'ai pas encore vu. Je sais que c'est dans mon... J'ai été invité à l'avant-première à Paris, je n'ai pas pu aller. Parce que je pense que j'étais en déplacement. Et après, je me suis promis d'aller le voir. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais bon, je suis avec une amie ici qui s'appelle Evita. Et qui, elle, l'a vu. Elle a vu, mais je pense qu'elle ne voudra pas en parler parce qu'elle est plutôt du genre timide.
On est en petit comité.
Elle a vu et que ça lui a plu, mais moi, en dehors d'elle, j'ai beaucoup d'amis à Paris qui ont regardé ce film et qui ont vu le film, qui en ont dit du bien à travers les réseaux sociaux. Ce que j'aime bien, c'est que ce film déclenche ce que j'appelle une réaction ou pro ou anti. J'aime pas trop d'ailleurs les anti par rapport à ce qu'ils disent au livre. Exemple, j'ai un ami qui est très très polémiste un peu sur les réseaux sociaux, qui lui dit que c'est un film qui quelque part joue sur les caricatures du noir, notamment en les exagérant. Si derrière ça il y a un discours qui passe, moi ça me va, et c'est ce qui se passe. Nous sommes arrivés à un point où même s'il faut passer par quelques astuces pour donner des leçons aux autres, pas que à la communauté, hein, puisqu'on est quand même dans une humanité où il faut pas qu'on se referme sur nous, on revendique ce que nous voulons par rapport à notre patrimoine, notre héritage culturel, notre histoire. On ne doit pas se fermer ou se replier sur nous-mêmes. Et il faut quand même qu'on soit au sein de l'humanité, puisque l'humanité est aujourd'hui ainsi faite, avec plus la culture des réseaux sociaux qui fait que, qu'on le veuille ou non, on est sur la place de l'humanité. Donc à partir de là, s'il faut passer par ces astuces-là pour éduquer les autres, moi, pourquoi pas? Moi, je pense quand même que ce film, d'après ce que j'entends, est à deux degrés. Le degré de l'humour, et si on s'y arrête, on peut de temps en temps s'irriter parce qu'il passe par ces caricatures, mais il y a un second degré, ce qui donne à réfléchir, et moi c'est ce qui m'intéresse. À titre perso, je ne l'ai pas encore regardé, mais je vais le regarder. Je pense que je fais confiance à tous ceux qui m'ont fait des retours plutôt intéressants là-dessus, quoi. C'est ça.
Alors, il y a l'actualité du monsieur là, mais il y a quand même l'actualité de monsieur Djineg aussi. Enfin, qu'est-ce qu'il y a Il n'y a pas un mini-album d'un monsieur des Ulysses, par exemple, ou d'autres...
Ouais.
Bah, j'espère bien.
Ouais, je pense qu'il pourra défendre ça.
Alors... Il n'y aura pas de...
Ça parle de G-Funk.
Ouais.
Ça ramène à des années.
Ah, ça
ah ouais, le G-Funk. Bien sûr.
Mais moi, j'en suis pas sorti.
Pas, oh, pas plus loin.
C'est,
Bien sûr. Ah, pas complètement changé. De...
Par contre, approche-toi.
Ah, je disais même la manière de consommer.
Oui. Normale
avec
oui.
Oui, quand même.
Du coup, non, en fait, ça a vraiment, les codes ont changé. La manière de consommer la musique. Avant, c'était les labels qui achetaient les albums.
Oui.
Maintenant, tu peux acheter des films.
Directement.
Tu vois, pour le top des tendances. Et oui. Finalement, bah, t'as trop bon, en fait, de cette manière.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, tu écoutes un album. Bah,
c'est
avant,
ça.
Un album,
c'était dans ton salon.
Les morceaux que j'aimais pas. Plus je l'ai sauté, mais finalement, trois mois après, je me dis, ah, finalement, j'aime bien, en fait. On avait une manière un peu différente de consommer un album.
C'est ça.
Voilà.
Tout simplement ça, ouais, c'est ça. On a un rapport plutôt de de fast-food. Hein.
C'est parce qu'il n'y a plus, comment dire, peut-être l'objet. Peut-être que ce ne soit plus soit le stream, ce ne soit pas un vinyle que tu achètes. Même si aujourd'hui on peut dire qu'avec le stream, ça équivaut presque à un prix par mois.
C'est ça.
Mais toi, tu vois, il n'y a pas. Tu achètes ton album, tu es content, tu regardes le livret qui a profit.
Tu lis.
Tu poses dans ta bibliothèque. T'es content. Ça, c'est. Tu achètes, tu fais, tu fais des playlists. Voilà. Moi, après, je consomme un peu des deux, mais c'est vrai que je préfère avoir du CD.
Ce qui est étonnant, c'est que j'en parlais avec un disquaire il n'y a pas longtemps. J'étais passé par à la FNAC, posé deux ou trois questions, et il m'a dit qu'il y a une recrudescence de la culture du vinyle, hein, et que c'est quand même une bonne indication du fait que c'est pas que les personnes d'un certain âge qui les achètent, hein, même des jeunes qui viennent, qui achètent du vinyle et qui veulent se doter d'une discothèque vinyle. Et que c'est la preuve que les gens sont en train de se lasser de cette relation directe dont on parle sur les réseaux, sur les plateformes musicales ou digitales. Et que peut-être que c'est une porte ouverte au retour de la musique orchestrée et de pure création. Hein, plutôt que les compositions, voilà, c'est ça.
C'est pour ça qu'on a mis du Covid.
Oui.
Non, mais le vinyle, c'est vrai, c'est.
Ouais, c'est bien sûr. Musical. Exactement.
Le traitement des aigus, des graves est différent.
C'est ça.
Intéressant, chaleureux.
Tout à fait. Ouais.
C'est vrai que ça revient. Moi, je pense que le vinyle va survivre et va disparaître dans quelques années.
Quasiment disparu déjà.
D'ailleurs, il y a plein de gens qui ont d'albums
CD. Oui.
Mais le vinyle survivra.
C'est ça.
Même s'il sort CD, c'est pas le vinyle.
Bien sûr.
Ça survivra.
Ce qui est intéressant en plus, c'est que non seulement les jeunes ou les gens de tout âge achètent le vinyle, mais quels sont les disques qu'ils consomment? Les disques des années 60, 70, 80. Est-ce que c'est ça qui fait le socle de la musique là, composée sur ordinateur aujourd'hui? C'est simple sur les notes d'il y a 30 ans, 40 ans et autres. Et c'est, donc, les gens sont en train de repartir à la source. Si nous ressassons ces notes-là à répétition, autant qu'on aille à la source, autant qu'on aille consommer du Jimi Hendrix, autant qu'on aille consommer du Marvin Gaye, autant qu'on aille consommer du Coltrane, du Miles Davis, ainsi de suite. Et c'est pour ça que le vinyle est en train, chez quelques puristes nostalgiques, et aussi sur quelques jeunes, auprès de quelques jeunes, est en train de reprendre un peu du poil de la bête. Et c'est qui va, c'est, je pense que ça va continuer. Moi, à titre perso, mais j'ai été posé la question là-bas parce que je voulais m'acheter un. Voilà, un lecteur en vinyle. Et ça me rappelle un peu quand j'étais gamin, le salon de mon père, ces discothèques qui étaient là, les pochettes d'albums, voilà, les afros, ainsi de suite. J'en étais nostalgique, c'est ça. Oui.
Alors, on va repartir. Alors, malheureusement, pas avec du vinyle, mais plus avec du CD. Et pas avec du funk, du gangsta funk, mais du heavy metal. Alors, allons-y. Alors, vous venez d'écouter Witchfinder General par Witchfinder General. Et on va poursuivre avec Blitzkrieg Hell to Pay. Et vous avez pu écouter aussi Witchfind, Give Them Hell et Pagan Altar, The Crowman. Voilà, c'était dans le désordre. Si vous avez l'oreille musicale, donc si vous avez du vinyle par exemple, vous savez. Si vous êtes un ancien, vous savez. Sinon, débrouillez-vous. Avec YouTube par exemple.
We'll be right back.
On termine avec Diamond Head, Lightning to the Nation.